Sur un chantier de construction classique, le danger est souvent visible, palpable. Une grue en mouvement, une charge lourde, une tranchée béante, la physique en fait, elle est plutôt intuitive.
Oui, totalement. On voit le risque, on l'évite.
Voilà. Mais dès l'instant où l'on pénètre dans le monde très spécifique du désamiantage, les règles de la physique classique semblent s'effacer au profit de l'infiniment petit.
Absolument. L'ennemi devient totalement invisible. C'est la mécanique des fluides qui dicte sa loi à ce moment-là.
Et la moindre erreur, la moindre faille dans l'interprétation d'un terme technique, ça peut entraîner des conséquences sanitaires dramatiques, et même des fermetures judiciaires immédiates.
L'enjeu est colossal, oui. Dans cet environnement à très haut risque, un mot mal compris, mais ce n'est pas juste une erreur de langage. C'est qu'une véritable faille de sécurité.
Une faille qui laisse passer des fibres microscopiques est mortelle. C'est pour cette raison que cette analyse d'aujourd'hui est fondamentale pour les professionnels du secteur.
Tout est fait.
Nous plongeons au cœur de la matrice du désamiantage en France. On va décrypter un document de référence absolu, la règle technique 00, qui est l'introduction aux règles techniques de sous-section 3 et définition, dans sa version définitive de septembre 2024.
C'est vraiment la nouvelle grammaire de la profession, en fait.
Exactement. L'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est de cartographier la genèse institutionnelle de ce texte, l'architecture de ses 14 règles, et surtout de disséquer ce fameux glossaire technique qui fait désormais loi sur les chantiers.
Une grammaire qui est conçue pour protéger les opérateurs de terrain, mais aussi, et c'est important, pour sécuriser juridiquement les entreprises de la filière.
Bon, décortiquons tout ça. Avant d'entrer dans la technique pure, posons un peu le contexte. Quand on lit l'introduction rédigée par la Direction générale du travail, la DGT, est-ce que créer de nouvelles règles, ça ne rajoute pas simplement une couche aux millefeuilles administratifs existants?
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que l'intention initiale prouve vraiment le contraire. Il faut remonter au PRDA, le plan de recherche et développement amiante.
C'était en 2014, c'est ça?
Décembre 2014, oui. Lancé par l'État pour une durée de 3 ans à partir de 2015. Au départ, l'idée, c'était d'accompagner l'efficacité énergétique. Mais la DGT, sous l'impulsion de Pierre Ramin, a saisi l'opportunité pour aller beaucoup plus loin.
C'est-à-dire?
Eh bien, l'ambition, c'était de créer de véritables DTU, des documents techniques unifiés, mais spécifiques à l'amiante. Tout ça pour s'aligner avec les 3 titres professionnels qui ont été créés en juillet 2018.
Ah, ce qui explique la présence d'une préface conjointe un peu inédite au début du document. On y trouve les mots de Michel Bonfils pour le CIRTA et d'Olivier Nicole pour le CDS DRE.
Oui, une préface qui décrit un travail de titan.
De 2018 à 2021. Mais pourquoi ces syndicats ont-ils pris la plume avec l'État?
Parce que la réglementation était devenue beaucoup trop foisonnante. Il y avait un besoin vital de traduire ce droit un peu abstrait en un geste métier, un geste harmonisé et opérationnel. C'est la traduction de la loi en bonne pratique écrite par le terrain, pour le terrain.
D'accord, donc ce n'est pas une bureaucratie de plus, c'est un pont.
Exactement, un pont entre la loi et la réalité physique du chantier.
Et ce pont, il prend la forme d'une collection impressionnante de 14 règles techniques. C'est très logique, ça suit la chronologie stricte de la vie d'un chantier.
Tout à fait.
On a la RT 00 pour l'introduction et les définitions, suivie de la RT 01 sur le repérage. Ensuite, il y a la RT 02 sur l'analyse des risques.
Alors là-dessus, il faut bien préciser que cette RT 02 est, je cite, « en cours d'élaboration ».
C'est noté. On continue avec la RT 03 pour les installations de chantier. La RT 04 sur le confinement. Ensuite, on gère l'air avec la RT 05 sur l'aérolique.
Puis on protège l'homme avec la RT 06 sur la maîtrise des APR, les appareils de protection respiratoire, et la RT 07 sur l'adduction d'air.
Ensuite, l'action elle-même, la RT 08 sur la diminution des empoussiérements, la RT 09 pour le retrait fortement émissif, la RT 10 gère la décontamination, et enfin, la fin de cycle avec la RT 12 pour les déchets, la RT 13 sur la fin de chantier et la RT 14 pour les installations fixes.
C'est un corpus complet. Mais pour le lire et l'appliquer, il faut en maîtriser le vocabulaire.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va attaquer ce grand dictionnaire technique, de A à Z. On commence par la lettre A et on attaque direct sur la physique de chantier. Quelle est la différence fondamentale entre l'abattage et la brumisation?
Ah, ce sont 2 stratégies diamétralement opposées. L'abattage, c'est très offensif. On projette des gouttelettes d'eau avec une grande vitesse pour capturer les particules en vol.
C'est pour forcer la sédimentation.
Exact. Et la note technique précise d'ailleurs que l'application de gel relève réglementairement de l'abattage.
Incroyable! Le gel est considéré comme de l'abattage. Et la brumisation alors?
La brumisation génère un brouillard de très fines gouttelettes, mais à très faible vitesse. Et attention à la subtilité. Si ce brouillard est orienté en permanence sur l'opérateur ou l'outil, il devient réglementairement un MP7 processus, un moyen de protection collective.
Très clair. Continuons sur l'air. Le document définit l'air comprimé comme un air dont la pression dépasse 4 bars. Et il y a l'ACR, l'air comprimé respirable. Tout ça s'intègre dans l'aérolique globale. Mais cet air que l'opérateur respire, comment est-il défini ?
L'air respirable doit se conformer strictement aux exigences de l'arrêté du 8 avril 2013. Et pour le respirer, on utilise un APR, un appareil de protection respiratoire.
Il n'y en a plusieurs types. Il y a l'APR filtrant, par exemple.
Oui, avec une interface à ajustement lâche ou à ventilation assistée. Mais attention, l'APR filtrante type FFP3 est formellement interdite en situation de retrait.
Interdiction totale. Et pour les autres APR ?
On a l'APR isolant à adduction d'air comprimé, qui peut être à demande à pression positive ou sans pression positive. Et enfin, l'APR isolant à air libre.
Et la menace qu'on combat avec ça, c'est bien sûr l'amiante. Le glossaire rappelle qu'il y a 6 variétés divisées en 2 groupes.
Les amphiboles d'un côté et les serpentines de l'autre, dont fait partie le fameux chrysotile.
Pour bloquer ces fibres, il faut une barrière. Le texte différencie la barrière statique de la barrière dynamique. Statique, on voit bien, c'est un mur étanche. Mais dynamique ?
C'est une barrière faite de vent, en fait. C'est une vitesse d'air calculée qui empêche le transfert de fibres entre 2 volumes.
Et ça demande des calculs rigoureux. D'où le bilan aérolique prévisionnel fait en amont selon les recommandations de l'INRS.
Exactement. Et qui sera confronté à la réalité du terrain avec le bilan aérolique chantier qui, lui, se base sur des mesures réelles de pression.
Passons à la lettre C, le calfeutrement de la zone de travail. Beaucoup le confondent avec la neutralisation.
C'est une erreur grave. Le calfeutrement, c'est physique, c'est boucher les ouvertures. La neutralisation, c'est la consignation des réseaux électriques ou de fluides. C'est totalement différent.
D'accord. Ensuite, on a le cantonnement.
Oui, c'est la base vie, l'espace d'hygiène.
Et la sécurité de l'air est assurée par des systèmes comme la centrale d'inversion automatique. Pour la traçabilité, on a le Code européen déchets, le CED, avec ses 6 chiffres et l'astérisque pour un déchet dangereux.
Absolument. Et le code famille, qui va de 1 à 9 pour le bordereau de suivi, le BSDA.
Quand on emballe tout ça, on parle de colis.
C'est le conditionnement unitaire manipulable, oui.
On trouve aussi la notion de compartiment.
Le compartiment, c'est l'espace constitutif des SAS. Tout ça s'intègre dans le confinement, ou système de confinement, qui empêche la dispersion des fibres.
Un système qui doit subir un contrôle régulier, et souvent un contrôle interne, réalisé par quelqu'un de l'entreprise, indépendant du chantier.
C'est ça. Ensuite, il faut bien distinguer le commanditaire, qui est l'entité commandant le traitement en installation fixe, du donneur d'ordre sur un chantier mobile.
Justement. Pour le curage, on a le curage vert, sans amiante, et le curage rouge, avec amiante. On a aussi le cuvelage pour l'étanchéité liquide. Mais revenons sur le donneur d'ordre. Cela soulève une question importante, non ? Une entreprise générale est-elle le donneur d'ordre ?
Alors, la note technique est très précise. Au sens du Code du travail, l'entreprise générale n'est pas le donneur d'ordre. C'est le maître d'ouvrage. Mais dans la pratique, elle agit comme telle pour son sous-traitant en désamiantage.
C'est une nuance juridique capitale. Parlons maintenant du déchet, encadré par l'article L541-1-1 du Code de l'environnement.
On distingue le déchet d'amiante libre, très volatile, du déchet d'amiante lié, prisonnier d'une matrice.
Et la loi les classe tous en déchets dangereux.
Oui, à cause de la propriété H7, qui est la propriété cancérogène.
On sépare d'ailleurs les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, des déchets de terre amiantifères.
Absolument, on ne les mélange jamais.
Tout ça généré par des opérations de décontamination, de démolition ou de déshabillage.
Opérations qui nécessitent un dispositif efficace de réduction de l'empoussièrement à la source.
Pour alimenter l'opérateur en air, on a un distributeur. Passons maintenant aux lettres E à L. L'équipement de l'opérateur nécessite un élément de raccordement pour brancher son masque.
Et s'il ne retire pas l'amiante, il fait de l'encapsulage, défini par l'article R442-96 du Code du travail. C'est un traitement en place.
S'il travaille en usine, il est dans une enceinte de travail d'installation fixe. Mais sur un chantier mobile confiné, l'air entre par une EAM, une entrée d'air maîtrisée.
Et là, on a 2 types, l'EACM, qui est calibré par sa géométrie, et l'ER, qui est réglable par un registre manuel.
Tout un réseau géré par des équipements et des équipements de distribution. L'opérateur, lui, porte ses EPI en intervenant parfois en ERP, établissement recevant du public. Avant d'entrer, il doit passer un essai d'ajustement.
Oui, le fameux fit test pour garantir l'étanchéité du masque.
Et à la fin, on a l'examen visuel. Mais pour l'installation fixe, c'est l'exploitant d'une installation fixe qui gère. Côté chantier, l'air sort par un extracteur.
Moteur obligatoirement équipé de filtres absolus H13 ou H14.
Et cet air protège le travailleur. Ce qui nous amène à une grosse friction institutionnelle. Le FPA et le FPN. Le facteur de protection assigné et le facteur de protection nominal.
Si l'on relie ça au contexte global de l'époque, c'est très instructif. L'INRS proposait un facteur de 100 pour la ventilation assistée. Mais l'instruction de la DGT de 2015 ne l'a pas retenu.
En clair, l'autorité réglementaire prime sur la recommandation de prévention.
C'est tout à fait ça.
Il y a une autre vérité de terrain abordée par le document, les fibres résiduelles. Souvent, les contrats demandent une décontamination totale.
Alors là, la note prévient clairement que la décontamination totale est une impossibilité technique. Exiger ça contractuellement, c'est une hérésie physique.
C'est rassurant d'avoir ça écrit noir sur blanc. Pour aider à la propreté, on pose un film de propreté, ou peau, en polyane ou PVC. On utilise la fixation de l'amiante pour piéger les fibres. On gère le flux entrant, on traque les fuites du bâtiment.
Oui, tout commence par l'habillage, puis on passe par un hall de transfert en installation fixe ou des sas sur chantier, mobile, parfois même dans des IGH, des immeubles de grande hauteur.
On déploie une installation de décontamination ou une installation fixe selon le cas. On crée un isolement et le réseau d'air est protégé par un limiteur de pression.
Parfaitement résumé.
On arrive aux lettres MAP. On a le maître d'ouvrage qui commande les travaux, le matériel qu'on doit décontaminer, le moyen d'approvisionnement en air, tout ça pour attaquer le MPCA.
Le matériau ou produit contenant de l'amiante, oui. Et attention, on a des MPCA environnementaux pour protéger l'extérieur.
Parfois, on tombe sur un MPCA intrinsèquement émissif. C'est quoi la définition exacte ?
C'est basé sur une forte proportion massique d'amiante et la présence de fibres très fines qui volent facilement.
Ça génère de gros niveaux d'empoussièrement, ce qui dicte le niveau de protection de l'opérateur. La moindre non-conformité est traquée.
D'ailleurs, l'air arrive par une nourrice, aussi appelée clarinette.
C'est ça. Et une fois le retrait fini, l'opérateur d'examen visuel intervient. La note distingue bien l'externe de l'interne.
Oui, l'externe est certifié et mandaté par le propriétaire en fin de travaux, alors que l'interne agit pour l'autocontrôle de l'entreprise.
Une fois que c'est propre, on retire la peau de propreté. Toutes ces étapes sont des phases opérationnelles décrites dans le PRE, le plan de retrait ou d'encapsulage.
Sans oublier le contrôle du point de rosée pour éviter la condensation dans les masques et chaque prélèvement d'air pour analyse.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final ? Le terme central de ce document, c'est le processus.
Le processus, c'est le cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est le triptyque PEPS, le MPCA, la technique d'intervention et les moyens de réduction associés.
Si on change un seul des trois, c'est un nouveau processus.
Exactement.
On a ensuite le producteur détenteur du déchet qui partage la responsabilité de l'élimination.
Les travaux s'intègrent dans un programme de travaux sécurisé par des protections collectives et la protection des surfaces.
On est vraiment dans la maîtrise totale du risque.
On passe à la dernière ligne droite, de A à Z. L'air purifié peut être réinjecté par un recycleur. Lors des contrôles, l'inspecteur peut émettre une remarque. Et tout l'air des opérateurs circule dans le réseau des respirables.
Et puis à la question cruciale des résidus.
Justement, comment l'entreprise gère légalement des résidus impossibles à retirer ? Je pense par exemple à un plancher ourdi. La note sur les résidus de MPCA est vitale ici. Elle pose les limites techniques de destruction du support. On ne va pas détruire le bâtiment pour quelques fibres.
Ce qui amène aux sous-catégories.
Oui, on a les résidus incrustés de MPCA qu'on ne peut pas retirer et qu'on laisse en place. À l'inverse, on a les résidus libres de MPCA qui doivent être totalement aspirés. Et enfin, les résidus ponctuels incrustés de MPCA, très mineurs, qu'on trace sans modifier les plans.
D'accord. Pour sortir, l'opérateur passe par le SAS. Et on laisse la zone reposer en sédimentation continue ?
Et la mesure d'air dépendra de la sensibilité analytique du labo.
Avant les travaux, on a fait un sondage. À la fin, on distingue les surfaces susceptibles d'avoir été polluées des surfaces traitées.
Pendant le chantier, on aura surveillé le taux de fuite et le taux de renouvellement d'air de la zone par heure.
Parfois, en utilisant une technique particulièrement agressive pour déstructurer le matériau. On aura validé l'étanchéité par un test de fumée et les déchets sont mis sous emballage thermoformé, thermorétractable ou thermosoudé.
Tout repose sur la qualité des travaux préparatoires.
Absolument. L'opérateur traverse le tunnel de décontamination, qu'on appelle aussi SAS, branché à son unité d'air respirable, l'UAR, après s'être équipé dans le vestiaire d'approche. Il va naviguer dans différentes zones, et c'est là qu'on termine notre dictionnaire.
Le découpage spatial, c'est vraiment chirurgical.
On a la zone d'approche, à l'extérieur, la zone de chantier qui englobe tout, y compris la zone déchets. Mais à l'intérieur, la note sur la zone élémentaire est fascinante.
Oui, à cause de la mécanique des fluides, un simple recoin peut nécessiter une nouvelle zone élémentaire avec son propre extracteur.
Pourquoi, Samers ?
Pour éviter une zone morte, un endroit où l'air stagne et les fibres s'accumulent.
L'opérateur est actif dans la zone de traitement, incluse dans la zone de travail, et se repose sous air pur dans la zone de récupération. Et tout ça est souvent entouré par une zone tampon ou zone neutre.
Ouf, voilà, la cartographie est complète.
C'est le mot, oui. En refermant ce grand dictionnaire technique, l'ampleur de ce travail donne le vertige. Pour les professionnels du désamiantage, avoir un langage aussi inattaquable, de abattage à zone tampon, c'est fondamental.
C'est un armement juridique, vraiment. Ce vocabulaire, validé par l'État, le CIRDA et le CDDE, garantit qu'un mot sur un plan correspond à la même action physique et aérolique sur le terrain.
Mais au-delà de l'amiante, ce travail soulève une réflexion pour l'avenir. L'amiante, bon, c'est un matériau du passé, même s'il est encore très présent. Mais le bâtiment de demain continue de générer des polluants, des fibres, des poussières chimiques.
C'est certain.
Alors je me dis, si ce document a réussi à standardiser la gestion d'un danger invisible avec une telle rigueur, est-ce qu'il ne vient pas de poser les fondations méthodologiques pour traiter tous les futurs polluants dangereux de la construction à venir ?
C'est une excellente question pour l'avenir de la filière.
Une réflexion silencieuse que nous laissons à l'appréciation des professionnels pour leur chantier à venir. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des sources et à très bientôt.